Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Aux endroits brisés, c'est un roman triste. Voilà, il fallait le dire. Il y a beaucoup de tristesse dans ce roman. Même si c'est pas tout ce qu'il y a, c'est déjà une grande partie de ce qu'on va ressentir en le lisant. Aux endroits brisés, c'est ces endroits qu'on n'a pas forcément envie de vivre, mais qui nous traversent tous, que l'on vit tous et toutes. Alors quand on suit Anaïs, pendant de nombreuses pages dans cette tristesse, d'une certaine manière, on l'accompagne, on essaye de lui transmettre notre courage de lecteur, de lectrice. Et ça crée une lecture, ouais, pleine d'empathie. Évidemment, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ce roman. Mais tout l'art ici, ça va être de parler du nouveau roman de Pauline Armange, sans vous dévoiler les choses les plus importantes. Donc, si vous êtes prêts et prêtes à vivre cette aventure avec nous, c'est parti.
La Franchie Podcast, la librairie, chez vous.
Bonjour Pauline.
Bonjour Nazie.
Bienvenue à la librairie.
Merci.
Donc, est-ce que je dois prendre pour habitude que de te recevoir à toutes les rentrées littéraires? Non, mais ça peut être...
On peut dire ça.
Ok. Donc, alors, nous notons, hein, toutes et tous, que pour la rentrée 2022, tu t'essayeras sur une autre forme, peut-être, encore une fois. Puisque, bon, évidemment, on va en passer par là, mais je pensais que c'était intéressant de donc rappeler que tu es l'autrice phénoménale de « Moi, les hommes, je les déteste », premièrement parue au Monstrographe, une maison d'édition que nous aimons d'amour, et ensuite repris par cette grande, dans la grande collection au Seuil. Donc encore félicitations pour tout ce chemin avec ce livre. Aujourd'hui, nous te recevons donc pour « Aux endroits brisés », ton premier roman publié chez Fayard, qui est de ce fait complètement différent, on peut quand même le dire sans aucun spoil du tout, de ce premier livre « Moi les hommes, je les déteste ». Et la toute première chose en fait que j'aimerais savoir, c'est mais quand l'as-tu écrit ? À quelle période de ta vie tu étais quand tu as écrit « Aux endroits brisés » ? Parce que pour t'avoir reçu deux fois l'année dernière, je sais que « Moi les hommes, je les déteste » a quand même provoqué des mois pas faciles juste après. Et ça me paraît intéressant de voir si l'écriture du livre t'a accompagné dans cette période-là, s'il était déjà ultérieurement écrit ou... Raconte-nous tout, s'il te plaît.
C'est un roman que j'ai écrit à l'automne 2017, que j'ai écrit très très vite parce que je participe à chaque année à un challenge d'écriture qui s'appelle le National Novel Writing Month, où le but est d'écrire un roman en un mois, tout simplement. J'ai voulu cet automne-là m'y tenir vraiment et réussir à écrire une histoire de A à Z. Et donc c'est un manuscrit que j'avais déjà dans les bacs, que j'avais déjà envoyé à des maisons d'édition en 2019, et sur lequel j'ai pas mal quand même retravaillé à partir de novembre 2020, du coup, quand j'ai rencontré mon éditrice chez Fayard.
D'accord. Ah oui, donc de ce fait, tout mon imaginaire de me dire, parce que bon, j'imagine que vous avez lu la quatrième de couverture, on sait que l'on part sur une histoire triste quand même, hein. Et donc dans moi, mon imaginaire, je me suis dit, mais si elle l'a écrit en fait pendant cette période où ça a été vraiment quand même tumultueux suite à la sortie de Moi et les hommes, je les déteste. Ça devait être quelque chose d'hyper thérapeutique, de se dire... Enfin voilà, je suis partie un petit peu loin, je dois l'avouer. Mais pour autant, en fait, quand on est plongé dans un roman qui est d'abord aussi triste, on ressent énormément d'émotions, mais on ne peut pas s'empêcher en fait d'imaginer ce que vit en fait l'autrice en l'écrivant, parce que enfin nous en le lisant on a quelque chose quand même après j'imagine de l'ordre du souvenir, de des choses qui font écho aussi à nos propres histoires, mais pour autant la lumière dans ton livre arrive quand même plus tard, donc il a fallu un certain temps en fait. Est-ce que d'une certaine manière, si je peux me permettre de te poser cette question, l'année dernière quand tu as retravaillé sur le livre, est-ce que la période que tu étais en train de vivre t'a un peu aidé d'une certaine manière, si on peut valoriser tout ce qu'on peut valoriser, à reprendre cette période-là, ou au contraire ça a été difficile en fait de revivre ces périodes difficiles avec ton héroïne Anaïs?
En fait, quand j'ai écrit ce roman-là, j'étais en études, c'était un moment qui était très speed pour moi, qui était très compliqué. Et en fait, m'y replonger l'année dernière pour retravailler dessus, après avoir eu mon propre diagnostic de dépression, m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais un peu écrit une histoire qui me parlait très fort, personnellement, mais sans m'en être vraiment rendu compte. Parce que tout ce que traverse mon personnage, je l'ai plus ou moins traversé d'une certaine manière... il y a quelques temps, et c'est revenu, enfin voilà, c'est un peu par vague quand même, et ça m'a aidé à raccrocher un peu, en ayant conscience de ça, de ce diagnostic et de mon vécu à moi, d'apporter un peu plus de profondeur ou de réalisme du coup, parce que je savais poser les mots sur ce que je vivais et sur ce que mon personnage vivait.
Mais c'est assez fort ça, parce que de ce fait, je sais pas si j'avais lu... Enfin, vraiment, une sorte de descente comme ça. Enfin, j'ai dû en lire, mais ça faisait longtemps. Peut-être que dans mes lectures actuelles, ça n'était pas arrivé. Parce qu'on s'est un peu mis d'accord sur les choses qu'on avait le droit de dire ou pas. Donc, on va essayer... En tout cas, je vais essayer, parce que j'ai parfois des petites maladresses, de ne pas être trop dans le spoiler, de rester assez vague. Comme ça, évidemment, vous découvrirez tout dans vos lectures. Mais pour autant, on peut quand même annoncer que Anaïs, l'héroïne, décide d'aller à Limoges, pour en terminer, en fait. Bon, pour elle, c'est sa dernière ville. Du moment, en fait, où on apprend ça quand on lit la quatrième de couve, jusqu'au moment où vraiment on le vit dans le roman, en fait, vous allez avoir différents moments de son histoire personnelle par différents points de vue, parce que ça aussi, c'est un point sur lequel on reviendra. Mais c'est-à-dire qu'on vous fait vraiment vivre toutes les décisions qui l'amènent à décider qu'elle va en terminer, en fait, avec sa vie. Même si elle n'est pas concrète sur tout ça, elle sait juste qu'elle doit aller à Limoges, ce qui, à mon avis, fait beaucoup réagir. Mais pourquoi Limoges, Pauline?
En fait, l'idée de ce roman, elle m'est venue parce que je suis allée me faire tatouer. Et mon tatoueur, on parlait de plein de trucs, et il m'a dit « Ah, mais Limoges, c'est une ville où on va pour mourir, quoi !» Et j'avais trouvé ça hyper marrant, et je l'avais noté dans mon téléphone en me disant « Idée roman ?» pour l'interrogation. Et c'est vraiment cette phrase-là, qui est dans le premier chapitre, qui m'a fait construire tout un imaginaire autour en me disant qu'est-ce qui pourrait emmener quelqu'un d'assez jeune, etc., à Limoges, pour mourir. C'est d'ailleurs le titre de mon manuscrit avant qu'il change de titre. C'était donc Limoges pour mourir. Et en fait, au départ, c'est vraiment une blague. Et je pense que ça montre aussi à quel point elle est pas... elle a besoin d'un électrochoc, et donc de bouger, de changer d'air, etc. Et cette phrase-là qui lui trotte en tête, c'est un prétexte, en fait, pour voir d'autres choses et se confronter à autre chose que sa vie, quoi, qui est un peu déprimante, ouais, clairement.
Là, je ne peux pas louper cet endroit de la conversation pour te demander de nous lire les deux premières pages. Comme ça, on sera bien dans ta langue et on va comprendre un petit peu plus cette histoire de tatouage, s'il te plaît.
Le tatouage avant. J'ai voyagé dans une Clio abîmée avec un vieux couple abîmé qui tentait une escapade en bord de Loire pour recouler tout ça, pour repeindre la carrosserie peut-être seulement. Il a fallu partager avec eux des bribes éparses de ma vie, puis surtout de la leur. Au bout de 50 kilomètres, ils avaient saisi l'ampleur du problème, je n'aime pas parler. Je suis arrivée à Tours et il faisait beau. C'était l'été, un été insolent et flagorneur. J'avais trop chaud et je transpirais de partout, tant de ces températures outrancières que de l'angoisse qui montait dans ma gorge et qui menaçait à chaque instant de me submerger. Le couple abîmé, d'une gentillesse implacable, m'a déposé en face du studio qui se cachait élégamment dans une ruelle, à une dizaine de minutes de la Loire et du centre-ville. Il y avait un grand arbre en fleurs et pas un chat. Pas un être humain non plus, d'ailleurs. J'ai attendu. Je n'avais aucune idée du protocole à suivre. Devais-je m'annoncer ? À force de poireauter sur place comme un héron impatient, l'heure a fini par sonner au clocher de l'église d'à côté. J'avais envie de fuir à toutes jambes, de me noyer dans la Loire. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Je suis entrée dans le studio où quatre barbus dessinaient, chacun assis à sa table d'architecte. Ma silhouette condensée et mon air perdu n'ont pas semblé les surprendre. « Je cherche Yvan ?» Ma voix sonnait faux, mais personne d'autre que moi ne pouvait savoir ça. On m'a indiqué un escalier s'abîmant en spirale dans les tréfonds du bâtiment que ma mère m'aurait interdit de descendre. Mais je n'étais pas venue jusqu'à Tours pour laisser la voix agacée et hallucinatoire de ma mère me raconter des bobards. Le tatoueur m'attendait. Il souriait, je l'ai trouvé très beau. Typiquement mon genre, seraient plutôt plus tard les mots que j'utiliserais pour le décrire à ma sœur. Il était brun. Quand il souriait, une fossette creusait sa joue gauche et il souriait beaucoup. « J'attends Anaïs, c'est toi ?» D'un hochement de tête fébrile mais maîtrisé, j'ai confirmé. « Anaïs, c'est bien moi. »
Merci. Donc voilà, tout commence comme ça. Elle décide d'aller se faire tatouer, alors elle non pas à Limoges, mais à Tours. Elle est assez perturbée mais assez décidée hein, quand même de ce moment. Et les premiers personnages dont elle nous parle, c'est donc sa maman et sa sœur. Ça va être ce lien en fait à sa famille pour cette première partie. En fait, moi, je considère vraiment qu'il y a la première partie avant Limoges et puis la partie suivante. Ça va être des personnages qui vont être vraiment importants. Le père aussi, son petit ami, bien sûr. Enfin, tous les personnages de sa cellule familiale très proche, mais qui sont... elle nous les raconte quand même de manière très... J'aurais pas envie de dire stéréotypée parce que ça viendrait mettre un autre préjugé dessus, mais plutôt quelque chose d'assez franc, en fait. Ma mère est comme si, ma sœur, c'est celle-là qui est toujours... qui est parfaite, qui a sa petite famille aimante, etc. Mon père, il dit pas grand-chose, il est un peu éteint, et c'est toujours ma mère qui fait tout le bruit autour, etc. Mais tout ça, en fait, ça va vraiment nous la poser, nous, dans l'ambiance familiale. Et d'autant qu'en fait, dans ton écriture, tu vas faire passer la voix... en fait, de récits, de donc Anaïs à sa sœur, qui vont du coup en ping-pong prendre le relais. Le fait de placer Anaïs dans sa famille, quelle importance pour toi ça avait, alors qu'au final, le premier nœud dramatique, enfin si, on pourrait dire que le tatouage en est un, mais on va dire que le deuxième nœud narratif part vraiment de son couple.
En fait, j'avais pas... C'est compliqué d'écrire un personnage... pour moi, hein, qui allait être toute seule pendant un sacré moment. Enfin, et puis en plus, c'est une solitude qui est assez, qui est dans sa tête aussi. Et en fait, j'avais aussi besoin de montrer que il y avait des gens autour d'elle et qu'effectivement, elle considère de manière très tranchée parce que au final, elle se regarde beaucoup elle et ça l'empêche de voir beaucoup de nuances chez les autres. Et en fait, ça les pose comme étant là quelque part. Et d'une certaine manière, c'est elle qui décide d'oublier qu'ils sont là, de quelle importance ils peuvent avoir. Et sa relation avec sa sœur, c'était quelque chose de très important pour moi dès le départ. Et j'avais envie qu'il y ait une cellule familiale avec toutes les complexités que ça peut apporter, même si c'est pas, ça fait partie de son histoire, quand même si c'est pas le nœud du problème.
Mm-hmm. Mais c'est marrant parce que, pour moi, en fait, la plus belle relation de tout le livre, c'est les deux sœurs. Mais vraiment, vous verrez. Il y a une scène où je pleurais, mais totalement. Et après, je pense que quand on a cette chance-là, en fait, d'avoir une relation comme ça forte avec une sœur ou un frère, il y a quelque chose de l'ordre d'une émotion, en fait, je saurais pas comment l'exprimer. Et tu as vraiment très bien réussi. Je me suis reconnue, en fait, dans un certain lien, donc c'était assez surprenant. Et en même temps, ce duo-là va être vraiment riche tout au long de l'histoire et accompagner notre découverte de l'histoire d'une manière un peu décalée, en fait. Elle va pas toujours être dans l'action. Des fois, elle va être aider les nœuds dramatiques, mais c'est pas toujours le cas. Mais on va le découvrir petit à petit, encore une fois. C'est des choses que tu nous... En fait, tu distilles les informations au fur et à mesure. Et à un moment donné, les choses prennent sens un petit peu plus fort. Et pour ça, vraiment bravo. Parce que, mais vraiment, Parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis, mais en fait, le pas à pas de lecture a été hyper intéressant de ce fait. Parce qu'on est d'abord dans une ambiance, en effet, de dépression profonde. On est dans une expectative de se dire, mais enfin, quoi, elle va mourir comment, en fait, voilà. Puis ensuite, il y a d'autres personnages qui apparaissent et qui viennent nourrir, en fait, d'autres côtés de notre héroïne, mais qu'elle ne voit pas tout de suite. Et c'est vrai ce que tu disais, sur les personnages qu'elle ne voit pas avec toutes leurs nuances, mais que nous, on apprend peut-être un petit peu plus à découvrir un peu avant elle. C'est quelque chose... Enfin, je me dis, ça fait partie évidemment d'un talent, hein, de savoir faire ça. Mais dans ta construction des personnages, est-ce que c'est des choses, des figures qui te sont venues au fur et à mesure, où là, tu nous expliques que la famille t'aidait en fait à montrer que, en gros, elle se mettait dans une solitude, mais qu'elle ne l'était pas vraiment. Mais où est-ce que tu avais aussi des post-it, c'est-à-dire ce personnage-là, celui-là, ils vont être comme ci, comme ça, avec un background. Enfin, je sais pas, on imagine toujours en fait que dans ta tête, ils ont une vie beaucoup plus ample. Enfin, comment ils sont arrivés dans l'histoire sans trop les nommer, parce que je pense que c'est un petit peu intéressant quand même de les garder en surprise. Mais comment les autres figures ont été créées dans ton processus d'écriture?
Dès le départ, je savais que Anaïs, elle aurait une sœur, parce que moi-même j'ai une sœur qui est là et que j'aime beaucoup. et ensuite, je savais aussi que je voulais écrire une histoire d'amour. Et après, j'ai créé d'autres personnages pour ce qu'ils allaient pouvoir apporter à la narration. Et je faisais un truc très bête mais très marrant, c'est qu'en fait, je faisais passer des tests de personnalité à mes personnages. Donc j'allais sur le site MBTI et je répondais aux questions comme si j'étais Camille, la sœur d'Alanis. Et du coup j'avais un carnet avec plein de mots-clés sur comment leur personnalité allait pouvoir... Il fallait que ça aille dans mon sens quand même, hein, sinon on s'en sort pas. Et ça m'a fait une espèce de constellation de personnages aidants, mais qui ont quand même une vie propre, pour que ce soit pas juste des mécanismes et qu'on les aime bien quand même, ou pas d'ailleurs, en fonction de ce que j'avais envie d'en faire.
Oui, je vois bien de ce fait comment tu as pu dessiner en fait leur personnalité au fur et à mesure, en nous donnant encore une fois distiller, je pense que ça marche bien, parce que j'ai des fleurs face à moi, ça... c'est peut-être le bon mot. Mais il y a quelque chose comme ça qui de vraiment entourer les personnages, et c'est pas frontal, on les découvre pas, à part peut-être son ex-petit copain, ou en tout cas celui, Axel, qui est au début son petit copain et qui après est son ex-petit copain. Qui lui est assez... Enfin voilà, on n'est pas dans le détail avec lui, mais bon, on n'a pas envie d'être dans les détails avec lui. Tu le disais toi-même, et donc je peux me permettre de rebondir, puisque je n'ai pas fait le spoiler sur l'histoire d'amour. ça, c'était une des parties, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on aille vers une histoire d'amour, mais tellement pas. Déjà, je ne pensais pas qu'on aurait... des hommes en fait dans ce livre. Mais non, mais tu... c'est-à-dire que bon, en fait, hein, peut-être que je suis naïve, mais quand tu as quand même écrit un livre qui s'appelle Moi les hommes je les déteste, même s'il faut aller voir plus loin que le titre, c'est un titre qui existe. Et donc j'étais assez surprise en effet. Bon, il y a très peu d'hommes, hein, dans le livre, mais quand même, il y en a un, et on va dire un personnage principal. J'ai trouvé ça vraiment finalement audacieux. En fait, parce que j'imagine que tu t'attends à ce qu'on t'attende un petit peu sur ce sujet-là. Dans la mesure où tu l'as, du coup, retravaillé après la sortie du livre et après ayant vécu cette sortie de livre, quand même, est-ce que ça a changé quelque chose dans ce personnage masculin, ou est-ce que t'es vraiment restée fidèle à ta première histoire
Ce personnage masculin-là, je ne l'ai pas tant retravaillé. En fait, mon boulot, ça a été de comprendre pourquoi... j'avais décidé d'écrire cette histoire d'amour-là, et quel sens elle avait au regard de la personne que j'étais à l'époque et que je suis maintenant. Parce que, outre un livre, il y a 4 ans qui se sont passés, donc j'ai évidemment évolué. Et en fait, ce qui m'a pas du tout fait bouger sur ce personnage-là, c'est que quand j'ai voulu écrire une histoire d'amour, j'avais envie d'écrire quelque chose que j'avais pas beaucoup lu. Et qui m'avait manqué, moi, un personnage, parce que du coup, il y a des chapitres qui sont écrits du point de vue de ce personnage masculin-là, et j'avais envie de montrer à quel point Je me disais que dans les histoires d'amour en général, on n'a pas le point de vue de l'homme, en fait, qui tombe amoureux et ce que ça lui fait. Et alors que c'est très beau et que ça devrait être vachement valorisé, ça devrait être... Enfin, et j'avais envie de créer un personnage d'un homme tendre et doux et qui est du coup un peu complètement l'inverse de son premier, enfin de son copain au départ et qui un mec que j'avais envie d'aimer, quoi.
Mais c'est vrai que c'est tout ce qu'il dégage, en fait, c'est quelque chose de l'ordre de la délicatesse. Et c'est vrai que face à Anaïs, qui est un personnage qui a été malmené depuis la première page, parce que même si cette histoire de tatouage paraît un endroit à elle, courageux, etc., en fait, ça va, il y a beaucoup de choses qui vont lui revenir après, qui sont beaucoup moins fun dans cette expérience. Et elle paraît un peu brute, en fait. Dans les façons qu'elle a de se parler à elle-même, puisque le récit à sa voix, on a un peu l'impression qu'on est dans sa tête, en fait. Elle n'est pas gentille avec elle-même. Elle est dure avec elle-même. Et donc, quand on découvre ce personnage-là, qui est vraiment très différent d'elle, il y a quelque chose qui est évidemment de l'ordre de la méfiance, mais parce qu'on l'a accompagnée depuis le début et on sait bien que, on n'a pas envie qu'elle retombe, voilà. Mais qui est aussi dans la curiosité, en fait, de voir où il va nous emmener, en fait, lui aussi, et comment il va respecter la présence d'Anaïs. Je t'ai écouté sur le Book Club, ce matin. Je vous conseille, j'adore ce podcast. Je trouve qu'à chaque fois, c'est des petites pépites, des petits moments de confession autour d'autrices et de livres, leur relation au livre. Et donc, tu parlais de Amour et préjugés de Jane Austen. Donc, cœur, évidemment, voilà. Et là aussi, en fait, dans ce que tu disais, donc, parce que je voudrais qu'on en parle, mais je voudrais pas faire comme si je l'avais sorti de mon chapeau, puisque je t'ai entendu le dire ce matin. Mais tu parles de l'importance des émotions et du fait de transmettre des émotions dans la fiction. Et c'est un endroit que j'aimerais bien qu'on discute un peu ensemble, parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était des choses qui nous faisaient parfois beaucoup plus vite évoluer que de ressentir des choses dures ou agréables ou perturbantes, le trouble, etc. Et que quand ça vient de la fiction, il y a quelque chose peut-être qui passe moins violemment que parfois par l'essai, où on est tout de suite dans quelque chose de la réalité, d'essayer de se comprendre soi par rapport à ce qu'on vient de lire, etc. Que là, ce sont des personnages qui font le prisme, en fait, de cette passation-là. Et donc, cette histoire d'amour que tu nous fais vivre, elle est très émouvante par les différentes étapes dont elle est construite. Puisque tu es quelqu'un qui aime ressentir des émotions en lisant de la fiction, est-ce que tu t'es plongé, tu as vraiment écrit ça dans cette idée-là, en fait, de transmettre des choses fortes alors, peut-être que la réponse est évidente, mais je me dis, mais comment, en fait, on construit une histoire d'amour quand on a vraiment une exigence aussi assez forte d'émotions, quoi, derrière?
Oui, oui. J'espère que j'écris des choses qui vont faire ressentir des émotions. Je pense que c'est pas facile et que moi, mon exigence, elle est là. C'est si je ressens pas d'émotions en lisant un roman, il y a eu un problème quelque part. Et en fait, moi, je me suis replongée dans ma belle histoire d'amour à moi. Je me suis dit que, en fait, dans beaucoup d'histoires d'amour de fiction, il y a beaucoup d'endroits qui sont très durs, où les gens sont méchants entre eux, où on se ment, et ça arrive dans toutes les relations. Mais en fait, c'est pas ce à quoi j'aspire, et donc du coup, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre, d'écrire. C'est pas ce qui me fait rêver, comme j'ai écrit une histoire qui me faisait rêver moi. J'avais comme objectif que ce soit à la fois crédible, mais en même temps un petit peu magique. Et je me dis que il y a des romans qui sont extrêmement politiques, qui abordent des sujets très durs, qui sont très forts, très beaux. Et je pense qu'il faut être... que c'est des romans extrêmement importants. Et moi, j'ai écrit un roman léger et doux, mais en même temps qui va peut-être changer des tout petits trucs chez des gens. Qui va juste faire passer un bon moment, hein, c'est aussi totalement cool. J'espère. Mais que, voilà, dans la fiction, par le fait d'inviter un lecteur ou une lectrice à être dans l'imaginaire et du coup, dans l'empathie avec quelqu'un qui n'existe même pas, en fait, peut toujours faire bouger des lignes à l'intérieur, même quand c'est moins frontal que peuvent l'être certaines œuvres très politiques.
Mais c'est exactement ça, l'empathie. En fait, on a énormément d'empathie pour tous les personnages, en fait, quasiment. Si alors peut-être pas le père, j'avoue, il m'est. Enfin, non, mais si je devais faire dans ma tête, le père et la mère, ils sont quand même. Si je peux me permettre, c'est un peu chaud quand même. Ils sont. Enfin, non, c'est des personnages qui nous aident pas trop dans le. On n'a pas trop envie de les aimer plus que ça. Voilà. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est toute l'idée de qui fait famille, qui est autour de nous, qui est vraiment présent et compte, en fait. Et ça va être toute la quête d'Anaïs, l'héroïne, mais aussi de sa sœur. Je pense qu'à un moment donné, elle va reprendre pied aussi à ce niveau-là. Et ce moment où on les retrouve toutes les deux à Limoges, qui est quand même... il a dû être... Enfin, comme si elles existaient vraiment, mais il a dû être hyper dur à vivre. Et en même temps, c'est ce qui va faire que leur relation va évoluer, va réévoluer. Et c'est là où, dans l'émotion que tu transmets dans tes personnages, il y a quelque chose d'hyper agréable. C'est qu'en fait, tout fait sens. Et que pour une émotion difficile, derrière, c'est pas que ce soit un équilibre de tac au tac, hein, mais ce n'est pas pour rien, en fait, que nos personnages souffrent et donc que nous aussi, on souffre d'une certaine manière. C'est que derrière, il va y avoir une explication, c'est que ça aura en effet fait bouger quelques lignes et que des choses vont, en fait, se mettre en place, des réflexions vont commencer à évoluer. Et c'est vrai que tu parlais de cette douceur incroyable, et on l'a lu plusieurs fois parce que, alors c'est assez drôle parce que, enfin, il y a pas mal de personnes, sur la blogosphère féministe qui ont eu ton livre et qui ont eu la chance de le lire comme moi avant tout le monde. Et donc, il y avait déjà des avis en ligne, etc., alors que personne ne pouvait l'acheter. Donc, super le moment complètement suspense. Mais je trouve que de toutes les critiques, ce qui revient beaucoup, c'est cette douceur. Après cette année qui vient de passer, que ce soit pour toi, mais aussi pour nous toutes. Enfin, je pense qu'on peut faire une grande généralité. Ça a été compliqué de retrouver en fait un endroit de lecture serein et paisible malgré toute l'aventure émotionnelle qu'on peut vivre. Ça a été hyper agréable. Et pour autant, tu l'as écrit il y a 4 ans, même si tu es revenu dessus. Donc, comme quoi, en fait, il y a des thématiques comme ça. Enfin, j'imagine des sujets qui restent. Est-ce que cette douceur-là, qu'on avait quand même ressentie dans moi, les hommes, je les déteste, pardon, avec la sororité et toute cette bienveillance que tu apportes aux femmes autour de toi, etc., et que les femmes t'apportent aussi, tu dirais que cette douceur-là, c'est vraiment un life goal, quoi. C'est vraiment ton... Non, mais parce que, en fait, je me rends compte, au fur et à mesure de discuter avec des autrices, c'est que parfois, il y a des sentiments, il y a des choses qui restent d'un livre à l'autre. Et là, je me dis, mais est-ce que Pauline Armanche, c'est la douceur?
J'adore, trop bien. Je suis une fervente croyante en la gentillesse et en la douceur en général. Et le cynisme et la méchanceté et la meuf, c'est... Miss France, quoi. je trouve ça... En fait, je trouve que c'est des sentiments et des comportements qui sont encore assez valorisés. On vit dans une époque cynique et c'est pas facile de garder la pêche et le courage, etc. Et bah, moi, profondément, je suis contente de ma vie, de ce que je fais. et je trouve que ça peut être aussi, ouais, un sentiment à cultiver, ce qui n'est vraiment pas facile. Et si moi, je peux amener ma pierre... Et en même temps, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. J'ai pas envie d'écrire des tragédies où tout le monde meurt à la fin. Quand j'ai fini d'écrire le premier jet de ce roman, je me suis offert « Éloge des fins heureuses » de Colline Pierret, du coup, qui est après devenue mon éditrice à Monstrographe, et où elle fait vraiment... l'éloge, hein, des histoires qui finissent bien et qui, ça veut pas dire que c'est gnangnan et ça veut pas dire que c'est très méjugé parce que c'est vu comme étant féminin, les rom-com, etc. Et en fait, c'est très beau et ça fait passer des bons moments et après on est content. On n'a pas besoin de grand chose de plus dans la vie, je pense.
Mais comme tu dis, en fait, les sentiments négatifs sont beaucoup plus valorisés que les sentiments positifs. Et s'il y a bien quelque chose sans, encore une fois, mais c'est fou quand même, à chaque fois, on se corrige nous-mêmes en disant, quand on parle de bienveillance, de douceur, on a l'impression qu'on a besoin de recadrer en disant, oui, mais enfin, bon, sérieusement, quoi, pas un truc un peu... Mais si, en fait, on a le droit d'être aussi dans l'excès ou dans des choses très douces. Et enfin, je veux dire, on n'a pas à s'excuser de vouloir du positif, en fait, quand même. Et d'autant Là, avec toutes les lectures, toutes les choses, c'était quand même fort ancré en fait dans les mouvements féministes. Et c'est des choses difficiles qu'on lit tout le temps, qui remettent beaucoup en question tout ce qu'on vit. Et là, en ce début d'année, on pourra pas se mentir, la thématique, c'est l'amour. Hein, je pense que voilà, le monde entier est au courant. On va révolutionner l'amour cette année. Et donc, d'avoir des romans comme ça qui proposent des pistes. Ben, ça fait la suite du job des essais aussi, ou ça enfin pas la suite dans le sens il y a du timing, mais ça accompagne, chacun s'accompagne en fait de, on se déconstruit, mais en même temps on commence à voir d'autres modèles dans les romans, d'autres types de narration, d'autres langues avec les langues inclusives, etc. Et tout ça en fait, ça permet, j'ai l'impression en fait, que nos imaginaires s'ouvrent d'un coup, quoi, comme voilà les cadres qui sont parfois hyper serrés et puis hop on gagne en mesure. Et ça fait du bien. Et c'est vrai que cette douceur-là, elle est importante à injecter dans les milieux les plus combatifs, comme on peut les avoir dans les féminismes, parce qu'on s'épuise au fur et à mesure, et dans des personnages si agréablement présentés, eh ben c'est un petit peu du réconfort quand même. Bah oui. Bon, il y a toujours beaucoup de compliments hein, dans cette première rencontre, mais bon, si tu es là, c'est que j'ai aimé ton livre. Hein. Sinon, il faudrait une fois que je fasse. Non, je vais pas faire ça. On vient de parler de positif, on va pas faire ça. La séance horrible. Je vous déteste. Quoi que ça pourrait voir si je l'ai réparti jusqu'au bout. Attention. Le dernier point que je voulais voir avec toi, mais parce que en fait, j'ai trouvé ça super chouette. Et limite, en fait, j'aurais apprécié de le savoir au début. Mais parce que j'ai pris l'habitude, parce que je lis ici, pour ici des livres de musique, et notamment au Moléoreste, où à chaque fois, on a une discographie renseignée, etc. Et donc, je mets la musique en même temps que, voilà, vous savez tout de mes techniques de lecture. Et à la fin, c'est une note, d'accord ? Je parle pas du livre. Tu indiques, en fait, les titres que tu as lus en écrivant l'histoire. Donc, « Five Minutes de Her »,« Parti pour rester » de Francis Cabrel, William Scheller, super, « Les filles de l'aurore »,« Clara Luciani »,« Pomme »,« Brigitte »,« Juliette Armanet »,« Camille », »,« Dirty Dancing » et « Alabama Monroe ». Non, mais tout de suite, vous, enfin, ça y est, en fait, vous l'avez le roman dans la tête, en fait. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et en fait, si j'avais eu 5 minutes de plus, je pense que j'aurais fait une bande originale juste pour vous mettre dans l'ambiance pendant l'attente. Si tu l'as noté, c'est que c'était important pour toi de le mettre. Mais parce que je me souviens pas que Anaïs écoute de la musique, par contre. Oui, voilà. Donc, non, ça aurait pu être elle ton renfort, en fait, pour donner un petit peu tes références. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de nous le dire? Ce que t'écoutais, est-ce que t'as eu envie qu'on se plonge dans cet univers musical-là, qu'on questionne, ah bon, Dirty Dancing, t'as vraiment aimé, ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup Dirty Dancing, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lien à la musique?
Ben, moi j'écris en musique tout le temps, ça me permet de me mettre vraiment dans la zone. J'avais lu quelques livres d'autres auteurs qui donnaient leur playlist d'écriture, et un des romans qui a beaucoup marqué mon adolescence, c'est La mécanique du cœur de Mathias Malzieux, donc l'album qui va avec. Et en fait, comme j'ai beaucoup de gratitude pour les œuvres culturelles et donc du coup la musique quand j'écris, qui vont venir nourrir un sentiment, un vocabulaire, une émotion. Et ça me semble normal et cool de partager et de dire, ben voilà, quand j'étais dans cette zone-là, ben j'écoutais Dirty Dancing. pour moi, c'est une manière de rendre à César, d'une certaine manière aussi de remercier, parce que je suis vraiment une personne dans un grand univers de gens qui créent des choses. Et par exemple, si je cite Francis Cabrel, c'est parce que je pense qu'il a écrit tout ce qu'il faut dire sur l'amour. Et moi, j'arrive à la fin, je suis genre, bon, bah voilà, Francis Cabrel, quand même. et ça me fait super plaisir que tu l'aies remarqué et que
tu trouves ça fait. Oui. Mais en fait, je me demande, c'est quelle partie avec Dirty Dancing? Parce que tout de suite, moi, j'ai la musique qui se met dans ma tête et je me dis, mais quel est le moment où ça aurait pu...
C'était la scène du Nouvel An.
Ah oui.
Voilà, dans D'accord. ma tête, c'était pendant que je
criais. Ok, petite ellipse ici, mais au moins ça vous... Bah, vous devez lire un petit peu avant d'y arriver. Mais ah oui, d'accord, ah génial. Mais c'est ce genre de petit... ce petit moment, ça donne envie de relire la scène pour se mettre avec Dirty Dancing dans la tête. Après, laquelle de Dirty Dancing, ça c'est encore plus...
Tout l'album, vraiment.
Tout l'album. Merci beaucoup Pauline pour Merci. Cette discussion.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Pauline Armange à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Aux endroits brisés » édité chez Fayard. L'Affranchi Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchi Podcast.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.